De toute façon, au début, c'est pas...
Oui, oui, non, c'est bon.
Du coup, la dernière fois, c'était le 28 janvier, on parlait de la mise au travail du soja. La prochaine fois, on n'a pas encore calé la date, mais ce sera sans doute sur la mise au travail des travailleurs, plutôt dans le cadre de l'exploitation de l'huile de palme en Indonésie. Sans doute qu'il y aura une séance aussi sur l'économie du chocolat et du cacao. C'est pareil, ce sera a priori mensuellement, mais les dates sont... En fait, c'est que, pour repréciser, je voulais juste dire trois mots en introduction avant que Robin raconte la mise au travail des insectes pollinisateurs. C'est qu'on a lancé ce cycle sur la pollinisation pour essayer d'éprouver un peu l'hypothèse aussi de Jason Moore de la mise au travail des êtres de nature. Je vais juste rappeler son hypothèse, enfin surtout la lecture qu'en fait Bernard Aspe dans le séminaire qui a lieu aussi ici mensuellement dans la maison à côté, depuis plusieurs années. C'est qu'en gros, son hypothèse c'est qu'on peut, disons, on peut définir deux processus à propos de la stratégie d'accumulation du capitalisme. D'un côté l'exploitation et de l'autre l'appropriation. L'exploitation, c'est la situation du travail tel que l'a analysé Marx, celle du travail rémunéré, salarié, le vol des patrons sur le dos des ouvriers, etc. L'appropriation en même temps, et de l'autre côté, c'est plutôt la capture, disons la prise de toutes les sphères hors travail, non rémunérées, qui rendent possible l'exploitation. Parce que ce qui permet l'existence et le développement de l'économie capitaliste, c'est pas seulement le travail rémunéré salarié, enfin rémunéré, bref, c'est avant tout le travail gratuit. Et enfin, c'est un truc, ce travail gratuit, c'est notamment le travail des esclaves, des colonisés, des femmes, la sphère de la reproduction, etc. Beaucoup d'analyses ont montré que l'exploitation capitaliste reposait sur beaucoup de captures de ce travail gratuit de toutes ces sphères-là. Et du coup, ce qui permet un peu le développement de l'économie, c'est vraiment et avant tout ce travail gratuit. Et en même temps, le travail humain, ça représente presque une faible partie de l'activité nécessaire au fonctionnement même du capitalisme. Le travail salarié, le travail reconnu comme travail, n'est lui-même qu'une partie du travail humain. Ça correspond presque à cette petite partie spécifique du travail humain qui entre dans la sphère de la marchandisation. Et des fois, on se tromperait presque en faisant du capitalisme la critique juste sur la situation basée sur la marchandisation de tout, et en s'en tenant à cette critique morale presque de la marchandise, parce que ce qui va caractériser le capitalisme dans cette perspective, c'est la mobilisation d'une sphère non marchandisée bien plus large, sans laquelle cette marchandisation, par ailleurs, serait pas possible. C'est que presque le capitalisme survit des relations qu'il va susciter, et c'est ça qui est presque plus important, c'est l'appropriation de ces relations-là. Quoi. Et dans cette appropriation-là, ce sont aussi les êtres de nature. Les forêts qui ont permis le développement de la marine marchande hollandaise au XVIIe, les sols qui abritent le charbon ou le pétrole, le vent qui fait tourner les éoliennes, les poulets de batterie qui permettent de nourrir à bas prix, une force de travail elle-même payée très peu aussi. C'est toute cette sphère-là, en fait, c'est d'arriver à voir comment les êtres de nature ont été enrôlés et comment le capital a produit une nature à son image. Quoi. La nature, pour être productive comme ça, a été produite d'une certaine façon, adaptée aux exigences du capitalisme. Et évidemment, du coup, la nature dans ce cadre-là, pour le capital, c'est un stock de ressources disponibles qui soutiennent le développement de l'économie. Et pour construire une telle nature, il a fallu la produire comme extérieure, c'est-à-dire en faire évidemment l'autre de l'humain, considérer que ce qui avait de la valeur en elle correspondait à ce qui pouvait être quantifié, absorbé, etc. Et il a fallu construire une nature abstraite. Et là, le terme abstraite, ça veut dire surtout un peu l'extériorité et la quantification des êtres de nature et de leur milieu d'existence. Et c'est cette hypothèse qu'on voudrait un peu explorer. Et c'est pour ça que parler de plantation plutôt que d'agriculture, c'est important. Pardon. Parler de plantation plutôt que d'agriculture, c'est pour opérer un tout petit peu déjà ce déplacement, parce que, en fait, plantation, quand on dit ça, ça veut surtout dire l'économie qui a supposé la mise au travail de certaines plantes plutôt que d'autres, ou de certains poulets de batterie, enfin, des poulets qui n'étaient pas de batterie, mais qui le sont devenus avec leur mise au travail. Et ça a été cette sélection-là qui a supposé un peu, de la même façon qu'il y a la mise au travail des corps pour les ouvriers, il y a une mise au travail des plantes, des graines, des semences, des protéines, tout ça, qui a été terrible, quoi. Et qui a un peu tout uniformisé, standardisé, avec ces grands champs de soja, comme on parlait l'autre fois, l'usage des fois pour le maïs ou plein de choses. Ces champs-là, qui sont des fois essentiellement en plus des milieux, disons, très favorables au développement des pathogènes, de certaines maladies, etc., quand on standardise génétiquement toutes les choses, cette mise au travail-là, c'est ça que ça veut dire la plantation, quoi. Et que par plantation, ce qui est intéressant de maintenir, c'est qu'il ne faut pas après s'imaginer que c'est ça faire de l'agriculture. Enfin, que ça ne peut pas juste se superposer, quoi. Que faire juste de la culture ou de l'agriculture, ça ne veut pas dire forcément la plantation en tant que telle. Et d'arriver un peu à décaler comme ça, pour arriver à rouvrir un peu ce que ça veut dire à la fois l'agriculture, questionner quelles plantes ont été mises au travail, et de quoi on dépend, de quoi on soutient, etc. Puis que c'est quasiment... Évidemment, c'est un peu comme tout, quand on s'intéresse au travail gratuit sur lequel repose l'exploitation capitaliste, c'est qu'après, c'est un peu l'usine des plantes, là, ça devient un peu l'espèce de grosse usine mondiale sur laquelle reposent beaucoup de choses, quoi. Et c'est ça qu'on a envie de s'intéresser, et de voir ce que ça veut dire, cette mise au travail des plantes, de la nature, comment ça s'est passé. Et ce soir, c'est les insectes pollinisateurs. Et du coup, juste avant que tu commences,
vas-y.
Je vais vous lire une citation. C'est un peu décalé par rapport à l'approche de Jason Moore, mais c'est une citation d'un petit paragraphe du dernier Baptiste Morisot sur Manière d'être vivant, qui fait l'éloge des insectes. Et je trouvais que c'était une manière d'introduire après. Et Robin, du coup, bah peut-être tout le monde le sait, mais il fait sa thèse en drôme sur la question des insectes pollinisateurs. Enfin, il reviendra dessus. Et c'était l'occasion là, de le faire parler. Ça fait partie des buts de ce cycle, c'était faire parler Robin. Du coup, je vous lis Morisot et après je lui passe la parole. Parce que la crise de notre manière d'habiter revient à refuser aux autres le statut d'habitant. L'enjeu est donc de repeupler, au sens philosophique, de rendre visible que la myriade de formes de vie qui constituent nos milieux donateurs sont elles aussi depuis toujours. Non pas un décor pour nos tribulations humaines, mais les habitants de plein droit du monde. Parce qu'ils le font par leur présence. La microfaune des sols fait, littéralement, les forêts et les champs. Les forêts et la vie végétale des océans fabriquent l'atmosphère respirable qui nous accueille. Les pollinisateurs font littéralement ce que nous appelons candide chaque année, le printemps. Comme si c'était un cadeau de l'univers ou du soleil ou... Non, c'est leur action bourdonnante, invisible et planétaire qui appelle chaque année au monde, à la sortie de l'hiver, les fleurs, les fruits, les dons de la terre et leur retour immémorial. Les pollinisateurs, abeilles, bourdons, oiseaux... ne sont pas posés comme des meubles sur le décor naturel et immuable des saisons. Ils fabriquent cette saison dans ce qu'elle a de vivant. Sans eux, vous auriez peut-être des fontes de neige lorsque l'ensoleillement augmente vers le milieu du mois de mars. Mais ces fontes auraient lieu dans un désert. Vous n'auriez pas les fleurs de cerisier, ni aucune autre, ni aucun effet de la fécondation croisée qui fonde le cycle de vie des angiospermes, toutes les plantes à fleurs de la planète, qui forment plus des 9 dixièmes de la biodiversité végétale terrestre, et qui repose essentiellement sur les insectes pollinisateurs. On n'aurait qu'un hiver interminable sans eux. Un type d'être qui fait de ses mains, si on peut dire, le printemps, n'a pas sa place comme simple élément du décor, comme ressource. Il constitue un habitant, qui fait son entrée dans le champ politique des puissances, avec lesquelles il va falloir négocier les formes de notre vie commune.
Parfait.